Ceci est une déclaration du mouvement pour la renaissance du Burkina de Yeli Monique Cam. Dans cette déclaration, ce mouvement a réagi aux propos de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Allade, tenu le 14 juillet à l'occasion de la commémoration de la fête nationale française. En colère par ce qui a été dit sur le Burkina Faso, Madame Cam exige donc son départ sans condition et avec effet immédiat. Je demande le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso sans condition et avec effet immédiat. Ce 14 juillet, comme à l'accoutumée, l'ambassade de France commémorait sa fête nationale. Et à cet effet, Monsieur Luc Allade, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, n'a pas manqué l'occasion d'insulter davantage le peuple burkinabé avec des propos discourtois, orduriers et antidiplomatiques. Je n'imagine pas l'ambassadeur du Burkina Faso en France tenir un tel langage contre le peuple français sans que Kossiam ne soit appelé et réprimandé. Monsieur Luc Allade s'est trompé d'époque. Pourtant, la jeunesse burkinabé, fière de son éthique, de sa liberté et jalouse de sa souveraineté, est désormais consciente. Un proverbe africain dit que c'est la patate qui accepte d'être mangée crue. Quant au tarot, il a refusé cette imposture. Aucun ambassadeur français, donc s'il en existe encore au Mali, n'oserait tenir de tels propos à l'encontre du peuple malien sans conséquence. Savez-vous pourquoi? Le Mali a refusé depuis l'avènement des soldats au pouvoir de rester patate, mais de devenir tarot. Nous, peuple digne du Burkina Faso, nous, jeunesse burkinabé, qui avons encore une once de fierté, un soupçon de patriotisme et de dignité, nous annonçons une marche suivie d'un sit-in devant l'ambassade de France à partir du vendredi 12 août à 14h, renouvelable tous les vendredis jusqu'au départ de cet ambassadeur. Et nous sommes dorénavant des tarots et plus jamais des patates. J'ai personnellement reçu beaucoup de menaces, même ma famille me demande de quitter la scène politique car elle a peur pour ma vie. Et ma réponse est celle-ci. Comment me taire face au risque de la disparition de mon pays? Comment me taire face à cet oppresseur que j'ai vu vaincre au Mali? Comment être poltronne face à l'oppresseur qui vient me dicter sa loi dans ma propre maison? Pour moi, être une personnalité politique et se taire face à la situation du Burkina Faso actuelle, c'est être tout sauf une personnalité politique. Je refuse de transférer mes combats d'aujourd'hui à mes enfants demain. De toute façon, qui suis-je devant le président Thomas Sankara qui a été martyr de l'indépendance de notre pays? Seul le grand Dieu, le Tout-Puissant, décidera. Je n'ai plus peur de la mort depuis que l'ennemi du peuple burkinabé s'est dévoilé à travers le terrorisme. Si je ne me bats pas, les Hani viendront me trouver alors même que tout burkinabé est demandé au front. Oui, je ne suis pas militaire, mais je suis militante et soldate de la liberté. Alors, mon terrain de combat désormais commence dans la rue dès ce 12 août 2022. J'appelle tous les soldats de la liberté et de l'intégrité morale et physique du peuple burkinabé à répondre massivement. Nous sommes sur une pente raide, nous sommes obligés de nous battre contre l'ennemi ou de périr. Seule la lutte libère, la patrie ou la mort, nous vaincrons tous ensemble le 12 août 2022 pour entamer la marche de la liberté. Les ambassadeurs français sont en très mauvaise posture en Afrique. Rappelez-vous, en février 2022, l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, invité sur le plateau d'une télévision ivoirienne, Jean-Christophe Béliard, s'est invité dans le débat des manifestations hostiles donc à la présence française en Afrique. Et comme ses pairs français, le diplomate n'a pas été déférent dans le mépris habituel qu'ils ont à traiter les peuples africains. Depuis plusieurs années, les jeunes du continent s'en prennent au symbole de la présence française en Afrique. Le pays d'Emmanuel Macron est de plus en plus critiqué par une grande partie de la jeunesse qui aspire à un continent nouveau après 60 ans d'indépendance où l'ex-colonisateur est toujours demeuré aux commandes des pays colonisés. Et visiblement, ses dirigeants français sont encore myopes face à cela. Dans le cas donc de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui donc se prononçant sur les manifestations qui avait bloqué durant plusieurs jours un convoi militaire français au Burkina Faso, comme celle en soutien au gouvernement malien. Bamako a été très arrogant dans ses propos. Pour le diplomate français, les manifestations qui ont rassemblé des milliers et des milliers de personnes ont été une manipulation pour discréditer les efforts faits par la France. Vous savez, avec 1 ou 2 000 francs CFA, soit 3 euros, on peut faire beaucoup. Il suffit parfois d'un sandwich ou d'un Coca-Cola et vous avez 2 000 manifestants dans la rue, a déclaré donc Jean-Christophe Béliard sur la télévision ivoirienne NCI le 20 février 2020. Il y a très probablement une instrumentalisation derrière ces sorties massives et le plus souvent hostiles à la politique française. Observée dans ces pays du Sahel, la manipulation fait partie aujourd'hui des relations internationales, a-t-il affirmé. Prétendre que ces manifestations qui se généralisent en Afrique et même en Europe sont faites juste parce qu'on aurait distribué du pain et du coca sont des propos aussi méprisants, donc injurieux. Et venant d'un diplomate français sur un plateau de télévision en Afrique, révèle la grandeur de la condescendance de ce peuple envers l'intelligence des peuples africains. Dans une partie de l'Afrique francophone, on assiste à une montée du sentiment anti-français. Ce sentiment a été exacerbé par les derniers développements du terrorisme au Sahel. Et si le terrorisme a pris le dessus sur le continent, c'est en effet principalement à cause de l'intervention militaire de Nicolas Sarkozy contre Muammar Kadhafi en Libye en 2011. Elle est la cause de l'actuelle instabilité régionale et les Occidentaux, la France en tête, en sont les responsables. De plus en plus d'Africains donc arrivent à la même conclusion, tout comme au Mali qui a chassé l'ambassadeur de France. Dans les autres pays d'Afrique, la population œuvre pour faire de même. Les ambassades occidentales sont considérées comme des comptoirs coloniaux en Afrique et il est important pour l'Afrique de se débarrasser de ces comptoirs une bonne fois pour toutes. En mai 2022, rappelez-vous, des manifestants sud-africains ont organisé une marche jusqu'à l'ambassade de France dans la capitale Pretoria pour exiger que la France cesse de s'ingérer dans les affaires africaines. La France continue de maintenir des bases militaires importantes et intimidantes dans presque tous les pays africains sur lesquels elle exerçait donc un contrôle colonial, a déclaré le président des Economic Freedom Fighters, donc troisième parti au Parlement lors de la manifestation. Mais les ingérences de la France en Afrique sont de plus en plus dénoncées. En juin 2022, de nouveau, Yelik Monikam avait également informé l'opinion publique sur le fait que la France nomme par décret des assistants techniques attachés à la plupart des ministères au Burkina Faso. Elle affirme également que ces assistants techniques occupent des bureaux au sein des ministères et ont un droit de regard sur les textes et la gouvernance du pays. Il en serait de même pour la Chambre de commerce et d'industrie qui, selon ses dires, sont sous l'emprise de la France. Officiellement, le régime juridique du protectorat n'existe plus depuis la déclaration d'indépendance, mais le régime du mandat appliqué met le Burkina Faso sous assistance de la France. Seul le président Thomas Sankara avait osé donc dénoncer, mais n'a pas eu le temps de mettre en œuvre sa vision de la souveraineté de notre pays, a-t-elle affirmé. La conscience des Africains est réveillée, il est clair qu'ils ont compris ce qui empêchait leurs pays respectifs de se développer comme il se doit. Ces manifestations pacifiques sont extrêmement importantes en Afrique, car comme on a pu le constater au Mali, c'est bien la population qui a poussé les troupes d'occupation occidentale hors du pays. Au Mali, le porte-parole de la MINUSMA est sommé de quitter le pays. Pas de répit pour Abdoulaye Diop. Après Barkhane, Takuba et les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO, le chef de la diplomatie malienne s'occupe maintenant de la MINUSMA. Le mandat de la mission onusienne a été renouvelé le 29 juin dernier pour une année supplémentaire, sans opposition donc du Mali, contrairement à l'appel de certaines associations de la société civile. Cependant, celles-ci n'entendent pas en rester là. Le 20 juillet dernier, Yere Wolo, debout sur les remparts, qui regroupe plusieurs associations de soutien aux autorités de la transition, a remis une lettre au quartier général de la MINUSMA à Bamako, lui enjoignant de quitter le pays avant le 22 septembre prochain, date commémorative de l'indépendance du Mali. Le nom de code de l'opération est « Bonnet bleu ». Le 29 juillet prochain, d'autres Maliens vont se rassembler au Palais de la Culture de Bamako avec comme objectif de réitérer cet ultimatum. Le même jour, des manifestations, donc du même ordre, vont se tenir à l'intérieur du pays, notamment dans les zones où la mission onusienne intervient. La MINUSMA, c'est une ordure qu'on se doit de balayer de notre pays, a lâché Adama Diarra, dit Ben Le Cerveau, le membre du Conseil national de transition et porte-parole de Yéré-Wolo, debout sur les remparts ce 19 juillet lors d'un point de presse. Et cet appel au départ de la MINUSMA, ajouté aux réserves de la partie malienne par rapport à son nouveau mandat, complexifie la mission de la MINUSMA. D'autant que, dans un communiqué en date du 20 juillet, le gouvernement a donné 72 heures au porte-parole de la mission, donc Olivier Salgado, de quitter le pays. Après l'ambassadeur de France, le Mali vient d'expulser donc un responsable de la MINUSMA. Il s'agit de Saldago, qui jusque-là était porte-parole de la force onusienne. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, donc mercredi 20 juillet, Madame Daniela Kroslak, représentante spéciale adjointe du secrétaire général adjoint des Nations Unies au Mali, a été reçue en audience au dit ministère où il lui a été notifié la décision du gouvernement invitant Monsieur Olivier Salgado, le porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures, comme l'a précisé un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette décision a été prise suite aux différentes publications de l'intéressé sur la situation des 49 soldats ivoiriens au Mali. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Salgado donc a affirmé sans preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 soldats ivoiriens au Mali. Les soldats interpellés donc dimanche à l'aéroport de Bamako ne font pas partie de l'un des contingents de la MINUSMA. Ces soldats sont déployés depuis plusieurs années au Mali dans le cadre d'un appui logistique pour le compte de l'un de nos contingents, a-t-il affirmé. Selon le gouvernement du Mali, Salgado donc n'a pas pu fournir les preuves de ses affirmations. La demande de rectification qui lui a été adressée est aussi restée sans réponse. En plus, la demande officielle à lui adresser donc par sa hiérarchie depuis donc le 12 juillet 2022 de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet ou au cas contraire de porter la rectification nécessaire dans la même forme est restée sans suite, a-t-on précisé dans le communiqué qui a ajouté que le ministre ne saurait passer sous silence ses agissements qui portent atteinte au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires. Quoi qu'il en soit, le mandat de la MINUSMA n'a pas substantiellement vraiment changé comme l'avaient demandé les autorités maliennes et reste donc adossé au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies avec comme principale priorité stratégique l'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et à la transition politique. Alors que les autorités maliennes voulaient voir la MINUSMA dotée d'un mandat antiterroriste avec comme priorité la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il est indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils dans un contexte de guerre asymétrique. Il y a lieu de clarifier contre qui on veut protéger les populations, sachant que la menace principale vient des groupes armés terroristes. Et comment, dans ce contexte, la MINUSMA peut-elle protéger les populations si elle ne peut même pas faire face à cette menace? S'est interrogé Abdoulaye Diop devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 29 juin dernier. C'est ce vœu que formulent également les populations maliennes dans l'enquête d'opinion Mali Maître 2022. L'analyse des résultats montre que plus de la moitié de la population malienne n'est pas du tout satisfaite de la MINUSMA, avec 14% plutôt insatisfaits et 45% très insatisfaits. Le manque de protection des populations contre les violences des groupes est la principale critique à l'encontre de la MINUSMA dans l'ensemble des régions, hormis la région de Kidal, où 79% évoquent principalement que le mandat de la MINUSMA n'est pas suffisamment connu. La priorité pour le gouvernement malien n'est pas la protection des civils, mais plutôt le contre-terrorisme dans un premier temps. La protection des civils a toujours été une priorité dans le mandat de la MINUSMA. En tout outre, donc, le Mali a émis des réserves qui mettent à rude épreuve la bonne exécution du mandat de la MINUSMA et annoncé donc au Conseil de sécurité son opposition ferme au soutien aérien de la force Barkhane à la mission onusienne qui fait également face à des restrictions sur une partie de l'espace aérien malien. Il a également donc attiré l'attention du Conseil sur les risques de politisation et d'instrumentalisation des droits de l'homme aux fins d'agenda caché, pointant du doigt le poids des droits de l'homme dans le mandat. Issa Konfourou, ambassadeur malien auprès des Nations Unies, a déclaré devant les membres du Conseil que le Mali s'opposait à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat et en particulier concernant les enquêtes. Cette présence accrue de la protection des droits de l'homme dans la résolution a amené la Chine et la Russie à s'abstenir de voter pour la résolution. Ces deux pays se sont abstenus pour la première fois sur une résolution renouvelant le mandat de la MINUSMA. Ils ont expliqué leur vote par le fait que la résolution proposée par la France et appuyée par le Royaume-Uni et les États-Unis donne trop de poids à la division des droits de l'homme et ne prend pas du tout suffisamment, en tout cas, en compte les efforts du gouvernement malien en matière de lutte contre le terrorisme, explique un spécialiste des questions internationales. Récemment, toutes les rotations de ces contingents militaires et policiers de l'ONU, donc y compris celles déjà programmées ou annoncées, ont été suspendues par le Mali jusqu'à l'organisation d'une réunion pour faciliter la coordination et la réglementation de ces rotations. Décision que les autorités maliennes justifient en invoquant donc le contexte de sécurité nationale après évidemment l'interpellation de 49 militaires ivoiriens que Bamako a qualifié de mercenaires, ce que dément évidemment Abidjan qui maintient qu'il s'agit des éléments d'appui à la MINUSMA alors que la MINUSMA même a nié ses propos. Ces entraves au mandat de la mission onusienne au Mali constituent donc une violation de l'accord sur le statut des forces signé entre l'ONU et le Mali, donc qui est tenu de le respecter, a prétendu donc le 30 juin dernier l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU Linda Thomas-Greenfield en réaction à l'intention du gouvernement de transition malien de refuser à la MINUSMA la liberté de mouvement nécessaire à l'accomplissement de son mandat. Le gouvernement de transition ne doit pas empêcher la MINUSMA de mener à bien une quelconque partie de son mandat. Nous exhortons le gouvernement de transition à assumer immédiatement et complètement sa responsabilité en tant que pays hôte d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies et à respecter les termes du SOFA. Cela dit, il est donc possible aussi pour le Mali de dénoncer l'accord sur le statut des forces. En cas de dénonciation unilatérale du SOFA signé entre l'ONU et le Mali, il faut d'abord indiquer qu'une période de plusieurs mois doit être observée avant que celle-ci ne soit pleinement effective. Et si celle-ci intervenait, cela compromettrait évidemment les possibilités de rotation et le renouvellement du mandat au-delà du 30 juin 2023, comme l'explique un spécialiste des questions internationales. Mais avant même d'en arriver là, plusieurs pays contributeurs de troupes au sein de la MINUSMA pourraient désengager leur contingent au regard des incertitudes qui planent. Et d'ores et déjà, l'Égypte et le Bénin ont donné le ton et d'autres pourraient suivre. Avec l'ultimatum des associations de la société civile malienne à la MINUSMA, les choses se compliquent davantage. Car elles savent qu'après le départ de Barkhane, la MINUSMA est le seul moyen pour la France de continuer à intervenir au Mali. Les projets de résolution concernant le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU sont rédigés par la France et dans la résolution renouvelant donc le mandat de la MINUSMA, il est prévu que la mission onusienne utilise tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Cela veut dire la possibilité de recourir aux forces françaises pour assurer ses opérations de sécurisation sur le territoire malien. Et pour toutes ces raisons, le Mali est en train de créer un ensemble de procédures administratives qui vont avoir pour effet de complexifier toute intervention dans le cadre de la MINUSMA et in fine d'empêcher la mission onusienne de fonctionner pour qu'elle parte d'elle-même sans être chassée, explique Hamidou Tidiani. La MINUSMA est en très mauvaise posture, tout comme les ambassades de France, considérées comme des comptoirs coloniaux en Afrique. L'Afrique se soulève.
« Le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo, a déclaré mercredi soir à l'issue du Conseil des ministres que des enquêtes sont en cours pour élucider les informations faisant état de l'existence d'une piste d'atterrissage clandestine utilisée par des groupes armés terroristes dans le nord du Burkina Faso. Dès que nous avons appris cela, j'ai posé le problème au commandement des opérations du Théâtre national qui continue les investigations et cherche à comprendre, a déclaré mercredi soir Bilgo à l'issue du Conseil des ministres. J'avais déjà reçu les données bien avant la publication de cette information de la part d'une source confidentielle. Je l'avais également partagée avec les ministères en charge de la Défense et de la Sécurité et au COTN, qui l'avaient bien réceptionné, a-t-il ajouté, précisant que l'armée burkinabé avait elle aussi déjà certaines données ou certaines informations sur ce sujet-là. Le porte-parole du gouvernement a soutenu que le commandement des opérations du Théâtre national poursuit les recherches pour essayer de comprendre d'où vient cette piste d'atterrissage, d'abord si son existence est avérée ou pas. Il a assuré que dans les bulletins d'information de l'armée ou encore lors d'un point de presse organisé par le ministère de la Défense, des informations complémentaires seront communiquées sur ce sujet. L'Afrique du Sud est jusqu'ici le seul membre permanent du G20 issu du continent africain dont les dirigeants réclament de plus en plus de voix dans les organes de gouvernance mondiale. Les ministres des Finances et de l'Économie de l'Égypte, du Ghana et du Sénégal ont plaidé pour l'octroi d'un siège permanent à l'Union africaine au sein du G20 pour mieux faire entendre la voix du continent dans cet organe de gouvernance mondiale, a rapporté l'agence Bloomberg le mardi 19 juillet, citant une lettre adressée par les trois responsables africains aux ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales du G20. La présence de l'Afrique en tant que membre permanent par l'intermédiaire de l'Union africaine renforcera le G20. Augmenter la représentation du continent dans les délibérations du G20 permettra une continuité et un engagement plus réactif, ont indiqué les ministres des Finances du Ghana, de l'Égypte et du Sénégal. Les trois responsables ont également estimé qu'une représentation permanente de l'Afrique au G20 renforcera l'engagement du continent auprès de cette instance de gouvernance mondiale regroupant les 19 économies les plus développées de la planète et l'Union européenne, alors que l'ensemble des économies africaines sont aux prises avec l'impact économique de la guerre en Ukraine. L'Afrique du Sud est le seul membre permanent du G20 issu d'Afrique. Les dirigeants du continent réclament de plus en plus de voix dans les organes de gouvernance mondiale. 33 pays africains bénéficient du système indien de préférence tarifaire en franchise de droit en faveur des pays les moins avancés. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique ont atteint un nouveau record durant l'exercice fiscal 2020-2021 pour s'établir à 89,5 milliards de dollars contre 56 milliards de dollars durant l'exercice précédent, a annoncé le ministre indien des Affaires étrangères. Ce niveau a été atteint grâce notamment au système de préférence tarifaire en franchise de droit lancé par l'Inde en faveur des pays les moins avancés, qui a étendu les exemptions douanières à 98,2% du total des lignes tarifaires indiennes. Jusqu'à présent, 33 pays africains ont été autorisés à bénéficier des avantages de ce régime, a-t-il déclaré à l'ouverture de la 17e édition du conclave de la Confédération de l'industrie indienne et de la Banque indienne d'import-export sur le partenariat Inde-Afrique. Le chef de la diplomatie indienne a également estimé que l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine aidera les entreprises indiennes à renforcer leur présence sur le continent, notant que l'Inde et l'Afrique doivent désormais travailler ensemble pour assurer leur sécurité alimentaire et énergétique et empêcher la prise en otage de leur population par les caprices des marchés internationaux. Il a d'autre part fait remarquer que l'Inde figure parmi les 5 premiers investisseurs en Afrique avec des engagements cumulés de 73,9 milliards de dollars entre 1996 et 2021. En Afrique, l'industrie du café est dominée l'Éthiopie et l'Ouganda. S'ils sont rivaux aussi bien sur la production et l'exportation, ces deux pays d'Afrique orientale connaissent tous deux une embellie au niveau de la filière qui reste stratégique pour leurs économies. En Ouganda, l'année 2021-2022 a été historique pour la filière café. D'après l'autorité ougandaise de développement de la fève, le pays a engrangé des recettes de 862,3 millions de dollars grâce à la vente du produit sur le marché mondial. Ce montant record depuis la libéralisation de l'industrie en 1991 est en hausse de 54% comparativement aux résultats de la campagne précédente. Selon le régulateur, cette prouesse commerciale s'explique principalement par une hausse du prix du produit sur le marché international et dans une moindre mesure par une progression de 3% du volume à 6,26 millions de sacs. Globalement, avec ces bons résultats, l'Ouganda consolide sa place de premier exportateur africain de café en volume, mais reste supplanté en termes de valeur par l'Éthiopie. Alors que l'Éthiopie a exporté sur la période 300 000 tonnes de café contre plus de 375 000 tonnes pour l'Ouganda, il a engrangé 1,4 milliard de dollars de recettes. Cette situation s'explique par le fait que l'Éthiopie exporte plus d'Arabica mieux coté et de renommée mondiale, alors que les ventes de l'Ouganda sont composées surtout de Robusta, variété qui compte pour plus de 80% de l'offre du pays.